Regarde, Isaac.
Oui.
Qu'est-ce que c'est bon, un théâtre vide.
C'est magnifique.
C'est magnifique.
Je m'en lasse jamais. Ah, c'est beau.
Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime. Oh, comme c'est beau que tu sois là. Oh, mon ami fidèle, mon meilleur ami, que ferais-je sans toi?
L'année dernière, ça m'a amusée de fêter Noël. Cette année, je n'avais envie que de pleurer. Je vieillis, sans doute. Tu trouves que j'ai vieilli?
Tu es plus âgée.
Oui, 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 c'est bien ce que je pensais.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Celle qui parle, c'est Elena, la grand-mère de Fanny et Alexandre. Autrefois actrice célèbre, la voici de nouveau sur scène, mais dans un théâtre vide, la nuit de Noël. Et pourtant, nous sommes là, son public, à l'écouter clamer son amour de ce qui fut le centre du monde, pour elle comme pour sa famille. Plus tôt, pressée par ses enfants, elle avait déclamé quelques répliques de ses rôles les plus fameux. Celui de Nora, dans Maison de poupée, celui de Phèdre aussi. Allusion qui nous avait fait comprendre que par-delà Elena, c'était bien la grande Dominique Blanc qui s'adressait alors à nous. Vertige de ce théâtre du vrai et du faux qui se joue ainsi sur la scène de la Comédie française. En 2017, au Vieux Colombier, Julie Deliquet avait monté un Vania, étonnant, intelligent et vif, où les acteurs de la troupe du Français improvisaient, jouaient, inventaient un Tchekhov à la fois fidèle à l'esprit et rajeuni dans la forme. La voici désormais Salle Richelieu, avec une adaptation de Fanny et Alexandre d'Ingmar Bergman, inoubliable et dernier film du réalisateur suédois, mais qui fut d'abord un roman, très inspiré de sa propre jeunesse, publié en 1979, et une série télévisée à succès. Laurent Stocker, qui fut de l'aventure Vania, y joue joyeusement l'oncle Karl, écrivain raté, alcoolique bourré de dettes, aux côtés d'Elsa Lepoivre, Denis Podalydès, Hervé Pierre, Thierry Ancis, Anne Kessler et 13 autres acteurs du français. Ils sont tous splendides. Bonsoir Laurent Stocker.
Bonsoir Kathleen Evin.
Alors en 2017, il y avait eu cette expérience formidable de Vania dont nous avions parlé ensemble.
Oui.
Et donc là, évidemment, dès que Julie Deliquet a parlé de faire une nouvelle adaptation à sa façon, vous étiez évidemment avec Hervé Pierre, avec Dominique Blanc, prêt à re-signer tout de suite, tellement l'expérience avait été formidable.
Ah oui, c'était une expérience unique. Je pense que dans la vie d'un acteur ou d'une actrice, ça arrive assez rarement. Et donc, on avait très envie et elle a repris pratiquement. Il manque juste Stéphane Varupen, mais il y a tout le reste de la distribution qui était déjà dans Vania. Elle voulait refaire un travail avec nous et on a signé évidemment avec grand plaisir.
En même temps, on se dit, Bergman, nous, on a vu le film, moi j'avoue, j'avais pas lu le roman, mais c'est quand même un monument et puis en plus c'est quasiment inadaptable, tellement c'est foisonnant ce film, cette série, ce livre. Comment est-ce que vous avez travaillé? Parce qu'évidemment, Florence Sévoz et Julie André l'ont aidé, ont fait une adaptation. Comment est-ce que vous, acteur au pluriel, vous avez travaillé? Est-ce qu'il a fallu voir tout Bergman, lire? Ou est-ce qu'au contraire, Julie Deliquet vous demandait de vous détacher un peu et d'y aller un peu frais, j'allais dire?
Alors, c'est très important chez Julie Deliquet, c'est d'y aller justement un peu frais. Et puis, surtout, de faire ce qu'on appelle une écriture de plateau avec elle. Même si le roman existe, même s'il y a la série, même s'il y a le film, elle voulait qu'on s'en détache et qu'on puisse nous-mêmes proposer des choses qui sont un tout petit peu en marge, mais qui sont directement liées au film. Un exemple, on a répété le jour du réveillon de Noël, le 24 décembre. Elle nous a demandé d'apporter chacun soit du vin, soit des victuailles, etc. On a fait un grand banquet. On a fait un avant-dîner de réveillon. Et puis la répétition a duré 4 heures autour d'une table avec vraiment un repas. Et on a goûté les plats et on a improvisé. Et dans ces improvisations, on a mis le texte. Et voilà, c'est comme ça qu'elle travaille.
Mais d'ailleurs, ça rappelle la scène d'ouverture formidable où le rideau est là, le rideau transparent. Et on vous voit tous dans un réveillon de Noël. Au fond, c'est directement inspiré de ce que vous avez vécu. Manger et bu.
Ah oui, c'est tout à fait ça. En fait, ce qu'elle aime beaucoup, c'est pour ça que je pense qu'elle a choisi cette œuvre, c'est la mise en abîme du théâtre dans le théâtre d'une part, et puis d'autre part, le fait de pouvoir se dire que dans les accents de théâtralité et donc de fiction, il peut y avoir quand même quelque chose de l'ordre de la réalité, d'une réalité qui touche les personnages. C'est pas pour rien que Denis Podalydès joue un metteur en scène, puisqu'il lui-même met en scène. C'est pas pour rien que Elena, qui est une magnifique actrice, est incarnée par Dominique Blanc. Alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas professeur et je n'insulte pas ma femme à la vie, parce que ce personnage, malheureusement, est mal embouché. Et c'est un écrivain raté. Donc là, moi, je n'écris pas. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a quand même toujours chez elle une envie de mettre de la vie et de la réalité dans la fiction. Voilà.
Mais d'ailleurs, c'est exactement ce que Ingmar Bergman disait. Il mettait sa vie dans toutes ses œuvres et notamment dans celle-ci. On l'écoute, c'était en 1988 dans l'émission de Colette Fellous à France Culture.
Nej, det är inte alls, utan det var så här att jag började skriva egentligen för skojs skull. Och jag brydde mig inte ens om att tänka efter vad det här skulle bli, om det skulle bli
en film. Avant de tourner Fanny et Alexandre, je m'étais mise à écrire pour le plaisir. Je voulais que ce soit un film, un roman, une nouvelle ou une chose pour la télé. Mais j'avais surtout envie d'écrire sur Uppsala, mon lieu d'enfance, et sur l'univers de ma grand-mère maternelle.
Ibland när jag ska somna till exempel så kan jag, och det är ett väldigt bra sätt att somna in.
C'est un de mes premiers souvenirs. Parfois, au moment de m'endormir, juste entre la veille et l'état de sommeil, je me voyais en train de parcourir les pièces de la maison de ma grand-mère. Et je savais précisément que tel tableau était là, tel tapis, telle horloge de porcelaine là. Je sais encore exactement précisément où chaque chose se trouve. Je me souviens aussi de toutes les odeurs. Aujourd'hui, nous vivons dans un autre univers sonore et lumineux, mais je peux me rappeler tous les bruits et même toutes les sensations olfactives.
Laurence Stocker, dans Fanny et Alexandre, il y a effectivement beaucoup de l'enfance de Bergman, et notamment ce goût qu'il a développé très tôt pour le théâtre, beaucoup plus que pour le cinéma. Il a toujours dit que c'était le théâtre sa passion. Et il y a beaucoup de lui-même dans les enfants, dans Fanny, dans Alexandre, surtout évidemment dans Alexandre, et dans son film, donc je suppose dans son livre également, il y a cette passion pour le théâtre de marionnettes.
Oui, d'ailleurs, il a fait un film qui s'appelle « De la vie des marionnettes ». Il a une passion pour l'enfance et la psychanalyse. Donc, on puise toujours dans une psychanalyse, quand on en fait une, les souvenirs d'enfance. C'est une chose primordiale. Et dans l'Aterna Magica, il dit que la vie a exactement la valeur qu'on lui donne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... C'est très intéressant de l'entendre parler juste avant, parce que ça me fait penser à Marcel Proust aussi. C'est quelqu'un qui, je pense, a une part d'enfance incommensurable en lui, et cette part d'enfance, artistiquement, elle est primordiale. Alors, il se trouve qu'en plus, c'est un homme de théâtre qui fait du cinéma. Donc, tout ça est une alchimie parfaite pour la salle Richelieu et pour la Comédie Française, et pour ce spectacle-là. Mais c'est très très important, effectivement, l'enfance dans le métier qu'on fait. Alors ensuite, quand les enfants, justement, dans Fanny et Alexandre, vivent les différents moments de leur enfance et puis jusqu'à un début d'adolescence, et qu'ils passent par des tunnels, par des choses absolument terribles, on a tous des souvenirs traumatisants du domaine de l'enfance. Et je crois que chez lui, il s'en sert énormément, même quand il fait des films comme par exemple Jeux d'été, où c'est toujours sur une île, c'est toujours dans des endroits qu'il connaît très bien. Et donc c'est pour ça que Ça se prête très très bien au théâtre qui est fait par Julie Deliquet.
Est-ce que justement vous vous êtes tous collectivement interrogés sur le fait que les enfants, puisque c'est l'histoire, c'est par les yeux des enfants qu'on voit Fanny et Alexandre, le film de Bergman, est-ce que vous vous êtes interrogés sur le fait que dans la pièce, en ce moment à la Comédie Française, les deux enfants sont en fait des adolescents, Rebecca Marder qui joue Fanny et Jean Chevalier qui joue Alexandre. Bon, en plus, ils sont même plus adolescents, ce sont des jeunes adultes.
Ce sont des jeunes adultes et c'est les plus jeunes pensionnaires
voilà.
de la Comédie Française.
Est-ce que ça a été une question? Comment est-ce que vous avez résolu ce problème?
Alors, il faudrait le demander vraiment à Julie Deliquet, mais dans les discussions qu'on a eues, au départ, elle avait très envie d'avoir de vrais adolescents. Mais c'est compliqué d'avoir des adolescents ou des enfants parce que il faut une alternance. On peut pas jouer avec eux tous les jours. C'est compliqué. Et je pense que quand le postulat est donné, c'est-à-dire que on dit c'est des enfants, même quelqu'un qui a 22 ou 23 ans, finalement, on n'est pas très très loin de l'adolescence et de l'enfance. Donc, il peut toujours se souvenir de ce passage qui était il y a quelques années. Finalement, je pense que quand on voit le spectacle, Dominique Blanc joue la maman d'Hervé Pierre. Ils sont pas très éloignés en âge, et de Denis Podalydès, et de moi-même. Je veux dire, ça pourrait être une sœur, mais pas forcément une mère. Donc, on ne se pose pas la question de savoir si c'est... C'est formidable au théâtre, c'est plus compliqué au cinéma. C'est pour ça que le théâtre nous permet ça. C'est-à-dire qu'une sorte de convention qui nous dit « Eh bien, c'est la maman de ces garçons-là », ça pose pas de problème. Eh bien, ce sont des enfants ce sont des enfants au début du spectacle, et puis qui deviennent des adolescents quand ils passent à l'évêché, quand ils rencontrent cet évêque atroce. Je crois que ça ne pose pas de problème de compréhension.
Alors, magie du théâtre, on le disait, effectivement, au-delà des tunnels traversés par les enfants, Fanny Alexandre, c'est une ode au théâtre. Le théâtre comme lieu de vie, comme lieu où finalement, malgré ces conventions théâtrales, la vérité, une vérité se dit. Et vous, votre personnage, Laurent Stocker, il en dit grâce à l'alcool.
Oh là là, j'ai froid dans ce théâtre.
Non.
J'ai mal à la gorge, je crois que je suis en train de m'enrhumer, ça me fait mal quand j'avale.
Mais non, c'est chez nous que tu prends froid. Mein Karlchen, le marchand du chauffage, ne nous fait plus crédit, on lui doit trop d'argent. Das weiß, du dort.
Et dire que ça fait 23 ans qu'elle habite ici, elle parle toujours pas la langue.
Si, j'essaie, mein Karlchen.
J'essaie
de mon milieu. Allez, viens te coucher maintenant. Allez.
Gustave Adolphe. Oh. Il est où, mon frère?
Il arrive.
J'arrive.
Tu sais ce qui s'est passé?
Non, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Mardi, je suis allé voir maman pour lui demander de me donner 10 000 pour remettre mes affaires à Flo.
Oui.
Elle a tout de suite sorti un papier comme quoi je lui devais déjà 37 000. c'est à n'y rien comprendre.
Mais oui, tu vas devoir retourner chez les Juifs.
J'y suis déjà allé, merci. Hein, je paye des intérêts exorbitants et quand j'ai du retard, il menace de montrer mes reconnaissances de dette à maman.
Mais c'est pas grave, je lui ai dit, on peut mettre mes bijoux.
Ah, mais dans le genre connasse, elle se pose là.
Oh, calme, allez.
Le professeur Egdal au monde piété.
C'est pas grave, allez, viens, tu veux pas arrêter de bouger maintenant. Allez, ah, dormir, ah. Allez, hop.
Je sais pas ce que j'ai. J'ai froid et je transpire en même temps. Cette angoisse.
Laurent Stocker, votre oncle Karl, il parle cru sur la scène de la Comédie Française. Je suppose que là, beaucoup d'improvisation aussi. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier que Bergman, dans le film Fanny et Alexandre, les paroles de la famille sont souvent très vulgaires, activées par la boisson, par l'émulation, par les disputes. Donc ça vous a semblé évident de parler comme ça?
Ah oui, c'est évident. Et puis, c'est l'ancêtre de Festen. C'est les endroits où vont se révéler les malaises, les mal-êtres. Ce personnage de l'oncle Karl, dans le film aussi, bon, il y a une séance de paix où il éteint les bougies avec ses paix. Il y a des gens qui disent, mais c'est trop, etc. Mais c'est vraiment dans le film de Bergman, pour le coup.
Mais en même temps, il nous rappelle Vania, parce que c'est un homme blessé, donc
absolument,
qui se venge en parlant mal à sa femme, on l'entend.
Oui,
c'est Véronique
sûr.
Vella qui interprète Lydia, qui a son accent
oui,
allemand.
Formidable.
Formidable. Et Quand on a vu Vania, on se dit qu'il y a une très grande filiation entre les deux. C'est le même personnage,
oui,
au fond.
Oui, alors, c'est le même personnage dans le mal-être, dans le malaise, parce que c'est, et dans l'alcool. Il s'engouffre dans l'alcool parce qu'il est malheureux. Il insulte sa femme parce qu'il est malheureux. En fait, c'est vraiment... comme je pense à en reparlant de l'enfance, des films comme Kirikou et la sorcière, on se rend compte que la sorcière est très méchante parce qu'elle a une épingle dans la colonne vertébrale. Et c'est un peu ça, ce personnage. C'est des personnages qui sont odieux, méchants, parce qu'ils vont mal. Et à partir du moment où, disons, une chose terrible arrive, c'est-à-dire qu'il veut récupérer les enfants qui sont maltraités, il ne boit plus. Et il en fait son cheval de bataille et ça devient celui qui va, avec son fer de lance, être le plus logique et le plus implacable dans la décision d'aller les rechercher.
En même temps, Laurent Stocker, on remarque tout de suite que c'est le personnage qui est, dans la première partie, en dehors du théâtre. C'est-à-dire que il a son frère Oscar qui dirige le théâtre, qui est metteur en scène. Sa femme y interprète parfois des rôles. Lui, non, il est en dehors. Et c'est sans doute aussi ça qui le met à part de sa famille et qui lui donne une sorte de déchirure. Tous les autres se retrouvent sur scène et lui, non.
Alors, lui non, et son frère, qui est Gustave Adolphe, il est au théâtre, mais il tient un restaurant dans le théâtre. Donc il est dans le théâtre, mais il n'est pas vraiment dans le théâtre. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire que celui qui a décidé de se révolter contre ce milieu théâtral, c'est le frère qui est devenu quand même professeur d'université, c'est pas rien. Il se trouve que sa vraie vocation, ça aurait été d'écrire, et il n'a jamais écrit.
D'ailleurs,
il écrit, mais c'est nul ce qu'il écrit.
On va l'entendre dans justement ce moment où on sent bien que par rapport à ses deux frères, il estime qu'il n'a pas aussi bien réussi.
Toi, Oscar, comment se fait-il que tu réussis tout ce que tu entreprends, hein? Et toi, Gustave Adolphe,
oui.
Comment se fait-il?
Quoi?
Dis-moi ton secret.
Allez, viens recueillir te coucher maintenant. Allez.
Elles sont mauvaises. Je sais pas si c'est parce qu'elles se lavent pas ou si c'est parce qu'elle a commencé à pourrir.
Non, je ne sens pas du tout mauvais, car je n'ai pas commencé à pourrir, c'est lui qui a des hallucinations. Allez, maintenant on dort, on rentre à la maison. Allez,
allez,
Olivier. Allez.
Viens.
Oui.
Je voudrais te demander quelque chose.
Oui. Dis-moi.
Comment est-ce qu'on devient un raté? Quand est-ce que la poussière se met à tomber, hein? On croit qu'on est le prince héritier d'un royaume et tout à coup, sans qu'on s'en aperçoive, la mort vous tape sur l'épaule. Oui, qu'est-ce que c'est la mort? Ah bah entrez justement. Vous attendez. Je suis un être odieux.
Laurent Stocker, on entend bien dans cette petite confession brève de l'oncle Karl, très vite il faut rire et plaisanter, on sent bien ce qui peut-être aussi lui a manqué, et là on pense à Bergman qui dit toujours que l'amour de sa mère lui a manqué parce que c'était une femme très froide, et là on entend Karl dire « je demande de l'argent à ma mère » comme oui. S'il lui demandait de l'amour, et à chaque fois elle dit non.
Il y a effectivement quelque chose qui a à voir avec le non-amour maternel. Je crois que c'est très fort chez lui. Bergman a souffert énormément de ça, mais il y a quelquefois des non-amours maternels qui produisent de magnifiques cinéastes. Alors, c'est formidable pour ça, au moins. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est tellement en souffrance, ce Karl, qui n'en devient odieux. Je crois que les gens qui souffrent de cette non-reconnaissance, que ce soit d'une mère ou d'un père, ont forcément une vie fracturée, fracturante, et qui peut quelquefois se gérer dans certains cas, et dans d'autres, ça peut devenir des gens
particuliers. Et là encore, le côté Vania, il est là.
Oui,
au fond, ce sont des personnages qui ont comme ça, ils se dévouent, ils font des choses, mais jamais ils n'arrivent à la hauteur des attentes. Jamais ils ne sont autant aimés.
La différence entre les deux personnages, parce qu'on en a beaucoup parlé avec Julie Deliquet, parce que moi, à un moment donné, je me disais, mais ça y est, c'est encore quelqu'un qui s'alcoolise, qui est désespéré, qui pleure, c'est que Karl devient méchant. Vania, il règle des comptes, mais à aucun moment il est méchant, au fond. il pourrait, bon, il tire quand même sur Serebryakov, donc il a quand même, mais il fait tout pour le louper, je dirais. Il fait tout pour ne pas, il tire à balles réelles sur lui, mais il le vise pas vraiment. Enfin, voilà, il lui fait peur. Karl, je sais pas ce qu'il va devenir, mais ce qui va le sauver quelque part, c'est le fait que les enfants, il faut à tout prix essayer de les tirer de l'injustice de l'endroit où ils sont. Voilà. Une fois que les enfants vont revenir et que Émilie va revenir, après, qu'est-ce qui devient ? Je sais pas.
Thank you.
vagabonde sur France Inter.
Ingmar Bergman, est-ce qu'il y a une grande différence pour vous entre la mise en scène de théâtre et la mise en scène de cinéma?
Ah oui, c'est très une grande différence. Mettre en scène de théâtre, c'est une profession. C'est mon profession et c'est nécessaire pour moi. Et mettre en scène de film, c'est mon passion.
Votre passion, votre grand plaisir.
Et oui, le théâtre était nécessaire. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de formidable dans ce Fanny Alexandre en ce moment à la Comédie Française, et j'imagine que pour vous, Laurence Hocker, mais comme pour tous vos camarades, c'est au fond une pièce sur l'amour du théâtre et sur l'importance qu'a le théâtre dans la vie de tous ces personnages, dans la vie de Bergman. Mais le théâtre comme un lieu qui rassure, qui englobe, qui permet à ceux qui sont en scène d'exprimer aussi leurs pensées profondes, leurs sensibilités. C'est un hymne au théâtre et c'est comme ça que Julie Deliquet l'a construit avec vous.
Oui, absolument. C'est un hymne au théâtre et puis c'est dans des périodes qui sont difficiles, on se dit que l'endroit où on peut trouver l'échappatoire, où on peut trouver du réconfort, où on peut trouver du rêve, où on peut trouver de l'amour, si tant est que ça ait un petit peu disparu de nos vies, c'est dans le théâtre qu'on peut le retrouver. Alors, en même temps, Heiner Müller disait que le théâtre, moi j'aime beaucoup cette phrase, est une immense absence d'issue et c'est là où vont tous ceux qui ont cherché une issue à leur vie. Mais ce manque d'issue à la vie, quelquefois, c'est dans le théâtre qu'on le retrouve. Et pour les spectateurs, c'est très tonique. Parce que je parle avec des spectateurs quelquefois qui me disent « Mais ce que raconte cette pièce, c'est magnifique parce que on a la sensation, après l'avoir vu, que tout peut recommencer, tout peut se reconstruire et on peut à nouveau repartir sur de bonnes bases. »
Oui, parce que là, cette pièce, comme le film de Bergman, c'est en deux parties. La première partie, avant la mort d'Oscar qui dirige ce théâtre, on voit les enfants sont sous la table, ils écoutent les discussions des adultes, parfois des discussions qui ne sont pas forcément pour leur âge. Ils participent, ils regardent émerveillés le spectacle se faire. Et puis après la mort d'Oscar et le veuvage d'Émilie, qui va aller épouser l'évêque Vergerus, là, on passe dans tout à fait un autre temps où il n'y a plus de théâtre, dit-on, et en fait où tout est faux tout d'un coup. C'est-à-dire que tout ce qui se passait du temps du théâtre dans la famille, on pouvait y dire l'amour, on pouvait vivre ensemble, rire ensemble, et dans cet évêché où on ne veut pas de théâtre et on dit qu'on est amoureux de la vérité vraie, c'est l'horreur. C'est-à-dire que il n'y a que des masques et des faux semblants. C'est intéressant ce partage de la pièce en deux comme
absolument, ça. Absolument. Je crois aussi peut-être que Bergman règle ses comptes avec la religion quelque part, et puis le fait de mettre la deuxième partie dans un univers religieux très strict, on pourrait presque dire carcéral. D'ailleurs, la scénographie des recrues est magnifique pour ça, parce que tout à coup, il y a un enfermement, il y a comme une boîte noire qui vient s'emboîter dans la boîte noire et qui, tout à coup, ne peut plus laisser les personnages une seule minute pour respirer. Et ils sont totalement sous emprise, quelque part. Et vous savez que, malheureusement, pendant des siècles, la religion et le théâtre ont fait mauvais ménage, puisque les acteurs étaient excommuniés. Alors, je ne sais pas, je pense que l'athéisme très violent et très fort de Bergman y est peut-être pour quelque chose.
Alors, Fanny et Alexandre se retrouvent avec leur mère, enfermées dans cette maison de l'évêque Vergerus, formidable Thierry Ancis. On va écouter un extrait, Rebecca Marder, Jean Chevalier, avec Elsa Le Poivre, leur mère. Ils ont peur et ils l'expriment.
Qu'est-ce que c'est que cette poupée?
Il y a 15 ans, deux petites filles vivaient ici.
Elles se sont noyées, n'est-ce pas?
Et leur mère aussi.
Elles sont peut-être devenues des fantômes.
Ne dis pas de sottises, c'est pas ma femme.
Elles dormaient ici?
Oui, je crois qu'à l'époque, c'était une chambre d'enfant.
Et un soir, alors que la nuit tombe et que nous entrons dans cette chambre, deux petites filles sont là, pâles et vêtues de noir. L'une d'elles tient cette poupée à la main. Et elles me disent... Viens jouer avec nous, Fanny!
Faut pas s'y mettre! Arrête! Et ensuite,
Elles entraînent Fanny dans un endroit profond de la rivière. Et Fanny ne peut rien dire. Elle ne peut même pas appeler au secours. Et tout à coup, Fanny disparaît.
Arrête.
Arrête.
Maman, je veux pas vivre ici. Là.
C'est sordide. Et notre beau-père est un peu trop rigide.
Ouais, sa sœur, elle est complètement folle.
Et cette tante qui grogne en dessous, on dirait une bête. J'ai faim.
Faut me laisser un peu de temps. Il y a beaucoup de choses à changer. Certaines iront plus vite. D'autres vont prendre plus de temps. L'essentiel, c'est de rester unis.
Pourquoi l'as-tu épousée ?
Je l'ai épousée parce que je l'aime. C'est comme ça.
Laurence Stocker, c'est vrai que cette deuxième partie, elle enferme la mère et les deux enfants dans un univers angoissant où les mots n'ont plus vraiment de sens. Alors, il faut parler de ce personnage de l'évêque, Vergerus, c'est Thierry Ancis qui le joue. Et alors là, c'est déconcertant quand on a vu Fanny Alexandre de Bergman, parce que lui, il en fait un personnage de protestant très 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 rigide, et on ne sait jamais si c'est un homme qui souffre autant que ceux qu'il fait souffrir. Tandis que là, Thierry Ancis, c'est, j'allais dire, presque un... On voit un évêque catholique qui boit, qui met la main aux fesses de sa femme, qui est très extraverti et qui ment tout le temps.
Oui, un peu comme la nuit du chasseur, où finalement c'est un homme d'église qui on peut se dire tiens, il est plutôt sympathique aussi, il joue de la musique, etc. Ça commence en fait, c'est pas pour rien qu'elle est partie vers lui, c'est-à-dire qu'elle a trouvé vraiment une attirance. Et puis il y a aussi une chose très importante, c'est qu'elle dit avec son mari, ils ne se touchaient jamais. Donc là, tout à coup, il y a eu vraiment une comme un coup de foudre. Après, elle ne se rend pas du tout compte de l'endroit où elle va tomber, ou alors elle ne s'en rend que trop compte et elle a très envie. Finalement, moi, je suis toujours pour me dire que les personnages sont assez intelligents et même si ils font certaines choses, ils sont inconsciemment, ils savent vers où ils vont. Donc peut-être qu'Émilie, elle avait envie d'aller vers quelque chose de sordide, de vivre quelque chose de sordide aussi. Là, c'est vrai que les enfants, ils comprennent pas où ils arrivent, alors que la mère, elle croit qu'elle va ressusciter avec ce nouvel amour.
Du coup, c'est vrai qu'on se dit, si c'est ça la vraie vie, la vie réelle, avec les vrais sentiments des gens qui ne font pas de théâtre, vivement qu'on en sorte et qu'on retourne au théâtre où tout est chaleureux.
Ça, c'est sûr, parce que par rapport à la première partie où on est dans une fête, même excessive, avec l'alcool, avec le bruit, avec les chants, etc. On sent que c'est une famille qui est plutôt joyeuse et festive. Et puis on tombe dans une famille extrêmement religieuse qui est une atrocité pour tout le monde, y compris pour la sœur qui est jouée magnifiquement par Anne Kessler, mais qui est dans un enfermement, mais elle ne se rend même plus compte dans quel enfermement elle est. Et puis il y a ce personnage que j'aime beaucoup, joué par Anna Servinka, le personnage
de Justina, la domestique.
Et la domestique qui joue un double jeu et qui est en même temps une sorte de sadique et de perverse avec les enfants. C'est quelque chose de... Je pense que cette famille prend beaucoup de plaisir à voir la souffrance, en fait. Il y a des gens qui peut-être s'engouffrent dans la religion parce que la souffrance les passionne, je ne sais pas.
Et puis il y a toujours cette variation sur la vérité et le mensonge.
Tu deviens un homme maintenant, Alexandre. Arrête. Et pour cette raison, j'ai envie de te parler comme un adulte parle à un adulte, d'accord? Peux-tu nous décrire ce qu'est le mensonge et ce qu'est la vérité? Est-ce que tu peux le faire? Tu trouves que c'est une question stupide et elle l'air des faits. Je voulais simplement plaisanter un peu, bien sûr, Alexandre, que tu sais ce qu'est le mensonge et ce qu'est la vérité.
Ah ouais.
C'est très bien, mon garçon, c'est très bien. Tu sais aussi pourquoi on ment?
Parce qu'on ne veut pas dire la vérité.
C'est une réponse très astucieuse, mon jeune ami, mais tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Je te demande donc pourquoi on ne veut pas dire la vérité.
Je ne sais pas.
Nous avons tout notre temps, Alexandre. Si tu savais comme ta réponse m'intéresse.
On ment pour obtenir un avantage.
Bravo! C'est bien et c'est concis. Maintenant, je vais poursuivre un peu plus loin mon interrogatoire, et excuse-moi si je te pose des questions un peu plus personnelles. Veux-tu nous raconter à ta mère, ta sœur, ma sœur, Justina, moi, pourquoi tu as menti à tes camarades de classe? Tu as raconté à tes camarades de classe que ta mère avait décidé de te placer dans un cirque ambulant, qu'à la fin de ce trimestre, des gens viendraient te chercher et que tu nettoierais le caca dans les cages et les écuries tout en commençant une formation d'écuyer en compagnie d'une jeune gitane nommée Tamara.
Laurent Stocker, où l'on voit le jeune Alexandre devenir l'héritier de son père Oscar, parce qu'en fait, quand il raconte ses mensonges, il fait du théâtre.
Oui, et puis c'est pas n'importe quel mensonge, ce qui est raconté là, c'est aussi un film qui est La nuit des forains aussi de Bergman. Il y a cette partie commune à tous les Ekdal, c'est d'avoir l'envie de raconter des histoires, d'être dans l'imaginaire, d'être dans l'imagination, et puis de faire rêver, de faire de dire des choses qui sont pas tout à fait la réalité. Alors vis-à-vis d'un homme d'église comme l'est l'évêque, c'est impossible à entendre, puisque c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les acteurs étaient excommuniés, c'est parce que ils incarnaient des personnes dont les sentiments n'étaient pas les vrais sentiments des personnes qui les incarnaient.
En tout cas, ce Fanny et Alexandre, j'imagine que pour vous, toute la troupe et pour vous, Laurent Stocker, c'est un vrai plaisir d'acteur, justement, parce qu'il y a de la place aussi pour s'exprimer soi-même, pour improviser.
Ah oui, c'est un plaisir total, parce que même si les improvisations sont quand même assez cadré, et puis on peut pas non plus déborder trop dans le cadre qui nous est imparti, il y a quand même quelque chose qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire de pouvoir toujours se dire qu'une histoire existe, mais qu'elle peut un tout petit peu s'éloigner de l'histoire que l'auteur a créée. Et finalement, l'art et la façon d'envisager le théâtre, pour moi en tout cas, mais pour beaucoup d'acteurs aussi, c'est ça. C'est pouvoir se dire qu'on est libre. En fait, être un artiste, c'est pouvoir être libre, avec un grand L. Et c'est de moins en moins évident.
En tout cas, le public y prend un grand plaisir. Merci. Merci à vous, Laurent Stocker, d'être venu nous parler ce soir de Fanny Alexandre, d'Igmar Bergman, mis en scène par Julie Deliquet.
Merci à vous.
Sans oublier Julie André et Florence Sévos qui ont participé à cette aventure. Merci à vous, c'est jusqu'au 16 juin, salle Richelieu. Au revoir.
Au revoir.
C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.